RFI.
Et voici aujourd'hui l'économie avec Dominique Bayard. Bonjour Dominique.
Bonjour Arnaud, bonjour à tous.
Après la dégringolade de la livre turque, le vice-premier ministre en charge de l'économie est aujourd'hui envoyé à Londres pour rassurer les investisseurs. Mission décidée en catastrophe à un mois des élections présidentielles et législatives anticipées. Est-ce que ça veut dire que le président Erdogan se sent menacé par cette crise monétaire ?
Eh bien, dans son entourage, cette chute de la livre est assimilée à un coup d'État économique fomentée par des pays étrangers hostiles au régime. Une nouvelle attaque contre Erdogan, en quelque sorte, dans le droit fil du coup d'État militaire auquel il a échappé. Cette interprétation paranoïaque des malheurs de la livre dit bien à quel point cette crise est perçue comme dangereuse pour le pouvoir. Quand la monnaie dévisse, l'inflation flambe. Elle dépasse maintenant les 10% en Turquie. Cela fait baisser le pouvoir d'achat des ménages et cela contribue donc à augmenter leur mécontentement. En un an, la livre turque a perdu le tiers de sa valeur. Son décrochage s'est brutalement accéléré la semaine dernière. La Banque centrale a fini par relever son principal taux d'intérêt de 13,5 à 16,5%. Trop peu, trop tard selon tous les observateurs. D'ailleurs, la livre a déjà repris sa glissade, d'où cette mission d'urgence confiée à Mehmet Simsek, un ancien de Merrill Lynch qui inspire plus confiance au marché que les autres conseillers économiques du président.
Alors si la monnaie turque est malmenée sur le marché d'échange, est-ce que c'est la faute des étrangers ?
Eh bien, la monnaie n'étant pas soumise au contrôle d'échange, elle fluctue au gré du marché. Et c'est vrai qu'elle souffre du rebond du dollar. Mais sa chute est d'abord le symptôme d'une crise fait maison. Le mal vient du déficit extérieur chronique du pays, un déficit aggravé par le surendettement de ces 10 dernières années. Avec les taux d'intérêt proches de zéro pratiqués en Occident, les Turcs en ont profité pour emprunter en devises étrangères à court terme, sans se soucier du lendemain. En surface, cela donne une croissance survitaminée, supérieure à 7% l'an dernier, mais une croissance déconnectée des capacités réelles d'emprunt du pays. Depuis 2008, le président Erdogan a donc été chanceux. Il a bénéficié de la politique accommodante de la Fed et de la BCE. Mais aujourd'hui, c'est l'heure de vérité. Le déséquilibre des comptes fait plonger la livre, remet en cause cette cavalcade. La livre, plaisante les économistes turcs, elle est devenue le meilleur opposant au président.
Et le sort de l'économie est redevenu la priorité de l'opinion publique turque.
Oui, Recep Tayyip Erdogan a longtemps touché les dividendes de sa politique économique. Quand il devient Premier ministre en 2003, il a terrassé le dragon de la crise monétaire, de l'hyperinflation, en recréant la nouvelle livre. Il a alors aussi beaucoup contribué à renforcer l'attractivité de son pays auprès des investisseurs étrangers. Mais progressivement, son régime s'est durci. Il a détruit les instruments de régulation de l'économie. La bourse d'Istanbul n'a plus vraiment d'autorité sérieuse de contrôle. L'indépendance de la banque centrale est de plus en plus douteuse. Il n'y a donc plus de contre-pouvoir économique et cela érode vraiment la confiance des marchés. Même les Turcs ne font pas confiance dans leur propre monnaie. 60% de leur épargne serait libellée en devises étrangères.
Dernière question, Dominique, est-ce que la Turquie peut revivre la crise de 2001 ?
Eh bien, oui, elle peut, mais avec une différence notable. Cette fois, c'est le privé qui est lourdement endetté. Des grandes entreprises ont déjà entamé des restructurations. C'est le cas du fabricant de bonbons Yildiz ou encore du groupe de bâtiments et de travaux publics Dogus. Pour le moment, les investisseurs retiennent leur souffle. Les projets sont suspendus dans l'attente des scrutins du mois de juin. L'inflation n'a pas encore atteint son maximum et c'est sans doute le prochain gouvernement qui devra faire face à la crise économique.
En bref, en Italie, la perspective d'une coalition populiste au pouvoir à Rome s'éloigne, mais pas pour très longtemps. De nouvelles élections auront lieu cet automne, une crise politique qui aura des conséquences sur les marchés européens.
Oui, l'écart entre le taux italien et le taux allemand d'emprunt va sans doute se creuser. Cela veut dire que la dette coûtera de plus en plus cher aux contribuables italiens. Il faudra aussi surveiller de près l'évolution des titres bancaires italiens à la Bourse de Milan. C'est donc une grande période d'incertitude qui démarre pour toute la zone euro, défavorable pour les réformes de l'Union comme pour le climat des affaires.
Au Brésil, le président Temer a fini par céder aux routiers en grève depuis une semaine à cause de la hausse du diesel.
Pour éviter la paralysie du pays, il a accepté une baisse de 12% du carburant. Dorénavant, son prix ne sera plus réajusté quotidiennement en fonction des cours du brut, mais tous les mois, le gouvernement va compenser les pertes endurées par Petrobras. La Compagnie nationale des hydrocarbures avait mis le feu aux poudres en passant au réajustement quotidien des prix. Elle devra donc trouver un autre moyen pour se refaire une santé.
Merci à vous, Dominique Bayard.